Chapitre 26. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Zizo, dissimulé derrière les fenêtres du musée de l'homme, ne cessait d'observer la tour Eiffel. Hakan, Sabi et Agnel se tenaient derrière lui, fixant eux aussi, à travers la vitre sale, les nuages sombres accrochés aux poutres de fer comme autant des chars de plantés dans un cœur gris.
Elle ne peut pas être morte,
fit Sabi en posant une main sur l'épaule de Zizo.
Pas Alix, pas elle.
Zizo se mordait les lèvres au sang. De leur point d'observation, ils pouvaient parfaitement distinguer les quatre pieds du tipi, les champs de blé, de maïs et d'orge qui continuaient d'être entretenus par des moissonneurs, les gardes qui avaient pris leur poste dès que le jour s'était levé. Au moment où Zizo, Hakan, Sabi et Agnel avaient posé un pied sur le champ de Mars, après être descendus en rappel dans la nuit, ils avaient dû fuir, très vite, pour échapper à la patrouille. Ils avaient couru, comme convenu, se réfugier au musée de l'homme, sur l'esplanade du Trocadéro, face au tipi, là où Pierre Seul avait habité durant ces dernières années. Courir, sans se retourner. Courir, en abandonnant Alix. Au petit jour, il n'y avait aucune trace d'elle.
« Ils l'ont capturée, » affirma Hakan. « Mais on la délivrera. On leur fera payer. On leur... »
Zizo n'écoutait plus, perdu dans ses pensées. Et si les gardes avaient décroché la corde avant qu'Alix soit assez descendue? Elle était encore suspendue trop haut quand il l'avait laissée. Elle n'aurait eu alors aucune chance de s'en sortir vivante. Leur dernier mot cognait dans sa tête, à le rendre sourd et muet. « Je t'aime, ma reine. Je t'aime, mon espion adoré. » Et si les gardes avaient ramassé son cadavre pendant la nuit? Et si...
« Elle s'est peut-être cachée, » suggéra Agnel. « Ou elle a trouvé un moyen de voler. Il faut l'attendre. Nous avions rendez-vous ici. »
L'ado oiseau s'inquiétait aussi pour Mano. Il n'avait aucune nouvelle de son ami depuis qu'il avait pris Vanille en otage dans son bureau de la banque du Nouveau Monde. Il y avait plus de 24 heures maintenant.
« Agnel a raison, » confirma Sabi. « Nous allons l'attendre ici. Et toi, petit espion, tu vas aller aux nouvelles. »
Zizo se retourna brusquement. Ses yeux étaient rouges de larmes. Il n'avait pas cessé de pleurer de toute la nuit.
« Je dois rester pour... »«
Non !»
trancha la Lolligirl.
« Tu dois rejoindre les résistants, Liu, Lunella et les autres au refuge 14. Ils auront davantage d'informations que nous. Si Alix a été faite prisonnière, nous aurons besoin d'eux. Si Alix s'est cachée, elle nous rejoindra ici. Et si... »
Sabi ne termina pas sa phrase. Elle aussi pleurait. Seul Hakan conservait les yeux secs et fixait obstinément le sommet du tipi. Zizo n'eut aucun mal à se faufiler jusqu'au refuge 14. Les couloirs du M offraient 200 kilomètres de galeries que nul autre ne connaissait aussi bien que lui. Le refuge 14 avait de plus été choisi pour sa profondeur, le nombre de couloirs différents y menant et le quartier déserté sous lequel il avait été percé. Plus personne ne se promenait dans les gares. Quelques savants, des années auparavant, avaient imaginé faire à nouveau rouler des trains pour pouvoir voyager plus loin, mais Ogenor, en fondant le Troisième Empire, avait mis fin à ses projets. Zizo s'arrêta devant l'affiche Star Wars 12, alluma avec prudence sa torche et exécuta le code. Un coup long, deux coups brefs, trois coups longs. Aucune réponse. La consigne était pourtant de toujours laisser un guetteur, quelle que soit l'heure. Zizo rangea aussitôt sa lampe. Si personne ne lui avait répondu, c'était que le refuge avait été abandonné par les résistants. Ou que les soldats impériaux l'avaient découvert. Prudent, il emprunta une issue de secours condamnée que lui seul avait pris soin de repérer des mois plus tôt. Il suivit un couloir étroit, puis gravit un escalier discret pour se retrouver derrière une porte de fer. Le refuge 14 se trouvait juste derrière. À travers les multiples points de rouille, il distingua des traits de lumière. Non, la planque des résistants n'était pas vide, mais elle était occupée par des visiteurs ignorant leur code. Zizo colla son oreille à la porte. Il pouvait entendre la conversation comme s'il était assis au milieu des visiteurs.
« Je t'assure ? »
affirmait l'un.
« J'ai vu de la lumière au bout du couloir. »« Eh bien, bouge tes fesses et va voir !»
répondit une voix féminine. Zizo avait reconnu les voix de Clark et Diana, de SSS promu sergent de l'Empire. Il y eut quelques soupirs, quelques grognements, quelques bruits de pas, puis un long silence avant que les pas reviennent.
« Il n'y a personne !» dit Clark.
« Pas étonnant !» répliqua Diana. « Rester comme ça sous terre pendant des jours, on va finir par devenir aussi aveugle que les rataupes de Galien. Quand la prochaine patrouille impériale vient-elle nous relayer ?»«
Pas avant demain. L'empereur veut coincer les derniers résistants. »
Diane éclata de rire.
« Il a peur de quoi ? Ils sont tous enfermés dans son palais. Le piège de la vallée des teinturiers a parfaitement fonctionné. Le seul à être passé entre les mailles du filet est Valère, cet historien boutonneux. »
« Et le capitaine Blanc ?» compléta Clark.
« Toute la cavalerie de l'Empire est à ses trousses. Ton albinos n'ira pas loin. Rien que son odeur le trahira. »
Son rire résonna une nouvelle fois dans le refuge.
« Faut se rendre à l'évidence. L'empereur a triomphé. Les derniers à lui avoir échappé tombent un par un. Cette folle de Chrysante et ce taré de Bill ont été embarqués par les ombrageurs, avec la gamine. Il ne reste plus au grand cerf que quelques moucherons à écraser. Te gitant. Mano, qui s'est sauvé de la banque du Nouveau Monde après avoir pris Vanille en otage. Sabi et ses trois amis du tipi, le géant, le corbeau et l'espion. Tu vois, pas de quoi s'inquiéter. Surtout que ces idiots vont sûrement très vite se précipiter dans nos bras.
Pourquoi ils feraient ça?
T'as pas une petite idée?
Clark cherchait visiblement sans trouver. Zizo lui aussi s'interrogeait. Pourquoi irait-il se jeter dans la gueule du loup?
« Et je suis certaine,
ajouta Diana,
que ce petit fouineur de Zizomis sera le premier à foncer tête baissée au palais impérial dès qu'il apprendra que sa reine Alix y est emprisonnée. Elle a eu une sacrée chance. Une chute de 20 mètres est tombée pile dans le réservoir d'eau stocké au pied du tipi pour entretenir les champs de céréales les jours sans pluie.
Le cœur de Zizo explosa.
Alix, vivante, prisonnière. « Mais vivante !»
Clark, à son tour, ne put retenir un rire gras.
« De la chance ! Je crois qu'il aurait mieux valu pour Alix qu'elle meure sur le coup, au pied de la tour Eiffel. Hein ? D'après ce qu'on raconte, Galien lui a réservé un traitement spécial. « Ne me touche pas !»
Alix tenta de visualiser le maximum de détails dans le laboratoire autour d'elle. Les cages, les seringues, les sangles de cuir qui pendaient des lits de fer, les bocaux remplis de liquide visqueux, les bistouris alignés dans les plateaux d'argent. Puis elle essaya de fixer Galien droit dans les yeux. Le médecin continuait de glisser sur elle son regard vert d'eau. Il s'exprimait d'une voix calme, avec des gestes doux, mais elle n'avait aucune confiance en lui. « Sois raisonnable, fit-il, il faut que je t'examine. » Après une telle chute, Alix, vêtue uniquement d'une blouse de papier bleu ciel, peinait à se tenir debout. Elle ressentait les conséquences de son terrible plongeon. Jambes bleues, muscles froissés, poitrine écrasée, peut-être une ou deux côtes fêlées.
« Je vais bien !» cracha Alix. « J'en ai vu d'autres !»«
Justement, ce n'est pas normal. » Les blessures les plus graves sont souvent invisibles. Traumatisme crânien, paroi abdominale perforée, hémorragie interne.
D'un geste, il fit signe à Idriss et Django de l'empoigner. Alix eut beau se débattre, elle était trop faible, les deux soldats trop puissants, ils l'allongèrent de force sur le lit médicalisé. Galien restait toujours aussi souriant, rassurant, comme s'il s'adressait à une enfant.
« Je vais t'endormir. » Tu ne sentiras rien.
Mue par une énergie farouche, Alix parvint à se redresser et à repousser les sangles qu'Idriss et Django tentaient d'enrouler autour de ses bras et de ses jambes. Elle fusilla le savant du regard.
« Écoute-moi bien. Personne ne touche à mon corps, sauf si je l'ai décidé. Tu comprends? Il m'appartient. Médecin ou pas, tu vires tes mains !»
Rien ne semblait pouvoir effacer le rictus mielleux de Galien.
« Je comprends. Je ne te toucherai pas. Ou seulement avec mes instruments. »
Idriss et Django revenaient à la charge, mais le médecin leur fit signe de patienter.
« Salopard !»
cria Alix.
« Pourquoi vous n'emprisonnez que des femmes? Combien en as-tu tripoté? C'est quoi ton délire ?»«
Les aider ?» affirma Galien. « Les soigner? Regarde. »
Il se déplaça jusqu'à l'autre bout de la pièce et tira sur le drap qui recouvrait un lit. Une fille était allongée sur le matelas, elle aussi habillée d'une blouse. Ses cheveux, son visage, son cou étaient entièrement brûlés. Une bande de gaz stérile recouvrait ses yeux.
« Tu lui as fait quoi ?»
cria Alix.
« Je l'ai sauvée. Elle est arrivée ainsi. Elle a été défigurée par une projection de chaux vives lors de l'attaque du village des teinturiers. Sans moi, elle serait morte. »
Qui est-elle?
Aucune idée. Il traversa à nouveau le laboratoire pour revenir près d'Alix.
Tu vois, tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Tu retrouveras bientôt tes amis. Eugénor tient beaucoup à toi. Il m'a personnellement demandé de faire très attention lors de l'opération.
Quelle opération? Je croyais que c'était un examen.
D'un coup de pied soudain, Alix frappa le visage de Django. Elle roula sur elle-même pour tomber du lit, hurla de douleur en se tenant les côtes, mais se releva aussitôt. Idriss se précipita sur elle. Elle attendit qu'il s'approche pour balayer d'un revers de main une série d'éprouvettes. Une pluie de verre blanc s'abattit sur le soldat. Il se protégea comme il put, mais continua d'avancer. Déjà Django se relevait. Alix tenta encore de reculer, de trouver une arme, n'importe laquelle, un bistouri, un scalpel, mais Galien avait pris soin de n'en laisser aucun à sa portée. Elle eut beau se démener, s'agiter, frapper, gesticuler, les quatre mains des deux gardes finirent par la maîtriser. Un coup de coude dans sa poitrine la plia en deux. Moins d'une minute plus tard, elle se retrouva allongée, sanglée, bâillonnée sur le lit. Galien pencha sur elle son long corps maigre. Il avait fixé une lampe sur son front. Un troisième œil, puissant et aveuglant, tel un laser capable de s'introduire dans n'importe quel cerveau.
« Je vais t'avouer un secret, ma reine. L'empereur veut te faire un cadeau. »
Alix mordit de toutes ses forces son bandeau. Une odeur de chloroforme emplissait ses narines. Elle continuait de tirer sur ses liens, secouant le lit dans un tremblement métallique.
« Et il tient à ce que tu le portes pour lui. »
Le coton humide se posa sur sa bouche et son nez. Aussitôt, Alix s'endormit. À travers les vitres du musée de l'homme, fouettées par la pluie, Akane fixait le quatrième étage du tipi, imaginant peut-être que son double, enfant, y habitait toujours. Agnel suivait des yeux un vol de grives, de leur décollage des tours du Trocadéro à leur atterrissage dans les flaques de l'esplanade. Zizo s'était assis entre deux statues, un moai de l'île de Pâques et une momie recroquevillée de Tchatchapoya, alors que Sabille allait et venait dans la galerie de l'homme en monologuant.
« Au final, petit espion de malheur, tu ne nous apportes pas de si mauvaises nouvelles. Mano est libre, quelque part. » Alix est vivante. Ma fraise des bois est même passée entre les mailles de la toile d'araignée.
Personne ne fit l'effort de répondre, tant les tentatives désespérées de la Lolly Girl pour entretenir un semblant d'espoir paraissaient dérisoires.
Il faut attaquer le palais impérial, assura Zizo presque sans desserrer les dents. Il faut s'y introduire et les délivrer.
Sabi s'arrêta pour le regarder, l'air désolé.
Par le tunnel secret? Il y a longtemps qu'ils ont dû le reboucher. Tu sais mieux que moi qu'on ne peut pas employer deux fois le même tour de magie.
Et cette fois, poursuivit Agnelle sur un ton encore plus désespéré,
ce n'est pas seulement une boussole qu'il faut sortir du repère du grand cerf. C'est plus de 30 prisonniers.
Sabi continuait de marcher dans la galerie baptisée « Qui sommes-nous ?», observant la pyramide de bustes exposés, une centaine, représentant toutes les couleurs de peau. Elle ignorait que les humains, adultes, se ressemblaient autant tout en étant si différents. Akan se retourna enfin.
« La moitié de l'armée impériale habite dans le palais. Ce dont nous avons besoin, c'est une arme. Une arme puissante. Celle dont parle le poème de Marie-Lune. Un moulin pour que ne survive que moi. Génor ne connaît que le rapport de force. »
Sabi errait toujours dans les pièces. Elle entra dans celle voisine appelée « D'où venons-nous ?» découvrant des squelettes préhistoriques, un crâne de femme recouvert de coquillages, une statuette en ivoire de mammouth. Elle avait parcouru en quelques secondes 6 millions d'années d'histoire de l'humanité.
« Et tu comptes faire quoi, mon géant ?»
demanda-t-elle à Akan par la porte ouverte.
« Agiter la menace nucléaire, comme dans l'Ancien Monde ?» Soit on déclenche un de ces moulins sublimes et tout le monde meurt, y compris Ogénor et ses amis, soit on négocie.
Pourquoi pas, répondit sérieusement Akan. Zizo continuait de réfléchir sans participer à la conversation. Il était déjà entré une fois dans le palais de l'Élysée. Il existait forcément un moyen d'y retourner. Sabi s'était avancé dans une dernière salle. Où allons-nous ? Impressionné par les reconstitutions des espaces de vie du monde d'avant. Une yourte mongole, un bus sénégalais coloré, des pirogues et des poteries. La silhouette d'Akan se refléta dans les vitrines.
« Quand je t'ai connu, »
fit Sabi d'une voix assez forte pour traverser les pièces,
« tu étais secrétaire général de la paix. Tu luttais contre toutes les formes de guerre. »
« Non, Sabi !» Je luttais pour éviter la guerre entre nos deux clans, parce que je savais qu'il y avait autant de bons que de méchants dans chacun des camps. Aujourd'hui, c'est différent. Génor détruira notre monde si on ne le détruit pas avant. Et pour cela...
« Il te faut l'arme absolue, » compléta Sabi. « On a compris, tu l'as déjà dit. »
Elle frappa dans une jarre d'argile pour passer ses nerfs, puis prit les trois résistants à témoin.
« Mais qu'est-ce qui nous arrive ?» C'était tellement simple quand nous avions 12 ans. Il suffisait d'enfiler une robe blanche de Lolligirl pour arrêter la guerre. La seule victime était une poupée de paille.
Personne ne lui répondit. Ils se turent tous un long moment. Sabi relut les noms des trois salles voisines. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous?
Dire qu'on avait un monde tout neuf,
poursuivit-elle, les larmes aux yeux.
Rien que pour nous. Avec toutes les cartes en main, en connaissant chaque erreur du passé. Et regardez ce qu'on en a fait.
Elle s'approcha à nouveau de la pyramide de bustes humains représentant toute la diversité de l'humanité.
Le même,
poursuivit la Lolly Girl.
Le même, en pire. Alors qu'on aurait pu tout changer. Tenez, rien que ça.
Elle lut doucement.
Musée de l'homme. Vous vous rendez compte? Comme si, depuis la préhistoire, les femmes n'existaient pas. Ils ne pouvaient pas l'appeler musée de l'être humain.
De rage, elle lança un violent coup de pied dans la porte devant elle, qui s'ouvrit. Sabi s'arrêta, toute sa colère retombée, foudroyée de surprise devant la pièce qu'elle découvrait.
Merde! Mes trois petits barbares! Je crois qu'il faut que vous veniez voir ça!